Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir. Et merci d'être toujours fidèle à cette émission Club de la Presse. C'est de lundi à vendredi à partir de 11h. Vous savez que nous vous visitons à travers cette émission. Un immeuble en proie aux flammes, s'est effondré hier lundi aux abords du Grand Marché, près du bâtiment Nopato, initialement destiné à l'habitation. L'immeuble servait également de dépôt et point de vente de produits chimiques, ce qui aurait favorisé la propagation rapide et violente du feu, selon les informations. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Kalis Batossi Madulba, et le maire de la commune Golf 4, Jean-Pierre Fabre, se sont rendus sur les lieux du drame ensemble et ils ont constaté l'ampleur des dégâts et coordonné les premières mesures d'urgence. C'est un événement grave. Les premiers éléments font état d'un incendie couvant depuis plusieurs jours, ce qui interpelle sur la vigilance dans nos milieux urbains, a déclaré le ministre Madulba. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse et nous allons l'aborder dans cette émission. Et nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité dans notre pays, le Togo, du continent africain et aussi alors du monde entier dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 15 avril 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Etek aussi de TV assure la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Osso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokobé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapao. Vous le savez très bien, vous pouvez nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous avez aussi raison de nous suivre alors sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. La presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. C'est avec mes confrères, journalistes en studio avec moi. Nous sommes mardi et l'équipe de mardi se met déjà en place. Eric Parcudio-Johnson, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers confrères, chers amis, auditrices et auditeurs de Canal FM, je vous salue.
Eric, j'espère que vous allez bien.
Tout va bien, merci.
Dieu merci, et ça fait plaisir de vous avoir dans ce studio et merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi, ma voix est un peu cassée, oui. Mais je demanderai aux auditeurs de m'en excuser parce que peut-être quand je vais parler, ils ne vont pas bien saisir. Je ferai l'effort.
Merci d'avoir précisé cela. Merci de faire l'effort. Adam Abreni, bonjour.
Bonjour, auditrice de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Ça va.
Alors, vous êtes journaliste et analyste politique. C'est le nouveau titre que vous avez. J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va.
D'accord, ça fait plaisir. Il y a Eric quand même qui veut vous poser une question.
Non, mais analyse politique, il a toujours été. Bon, je comprends pas pourquoi aujourd'hui il ajoute cela à ses titres. Peut-être qu'il a fait un virement à 180 degrés, je ne sais pas.
Non, mais peut-être que lui, il est là. Ça aura aussi ses raisons.
Non, c'est suite à certains remaniements, c'est de la rédaction, donc...
De ta rédaction.
Oui, de la publication est affectée à une dame. Vous savez, aujourd'hui, il faut faire la promotion des dames, ce qui fait que il y a lieu de préciser ce nouveau titre.
Ah, d'accord, merci. Je rappelle que votre journal, c'est Vision d'Afrique. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons notre chroniqueur de chaque mardi qui est avec nous, Claude Assiobotis. Bonjour.
Bonjour.
Claude, comment vous allez?
Et je fais comme le bon togolais, même lorsqu'il est sur un lit d'hôpital, il dit ça va très bien.
Ah ouais, là, c'est un bon togolais, ça.
Non, il dit ça va, mais pas
très bien. Très bien.
C'est
un réflexe. Hein. Comment ça va? Oui, même si j'entrais dans le coma, il sourit et dit ça va très bien.
Non, mais est-ce que cela ne fait pas partie aussi de notre éducation?
Oui, bien sûr.
C'est vrai que depuis le coup primaire, quand on veut nous apprendre les salutations, on dit, mais oui, quand on vous demande comment ça va, dites plutôt ça va très bien.
Oui, c'est bon.
Voilà, je pense que l'éducation aussi est passée par là.
Bien sûr.
D'accord.
Claude, c'est bien. Bien éduqué.
Oui, mais justement. Claude, nous sommes en train de clôturer notre thématique histoire et fiction par l'exploration de tes propres livres. La dernière fois, nous avons parlé de ton essai, L'amour et le sang. Aujourd'hui, nous allons circuler dans deux de tes romans dont le cadre est Doumé et le personnage emblématique s'appelle Agbeto. Le premier roman a pour titre Pêcheur de sirènes, que moi, je peux intituler encore La pète de la tête d'Agbeto. Et le second livre a pour titre Les Fraissiamois, que moi, à la lecture, je veux intituler Le retour de la tête d'Agbeto. Donc, il y a des indices que nous sommes d'abord dans l'histoire du Togo, c'est-à-dire des dates comme le 27 avril, le 13e jour du 13e mois, bref, le 13 janvier. Est-ce que nous ne sommes pas vraiment dans l'histoire du Togo, Claude?
Oui, ça, l'écrivain, le déclic chez l'écrivain, c'est toujours son environnement immédiat. Après, il va loin. Cette paire de têtes dont parle le roman, cette tête de tête d'Agbeto, c'est d'abord ce qui m'a inspiré, c'est l'assassinat de Sylvestre Olympio. Je ne le cache pas, qui a été le premier symptôme de notre incapacité à organiser nos contradictions nationales. Et Olympio n'a pas eu le temps. Peut-être certains diront la latitude de les organiser. Et Arema, au début, a parlé d'un bipartisme, mais il s'est enlisé dans le parti unique. Et voilà, à peu près, c'est ça le départ. Mais c'est pas seulement ça. L'écrivain, c'est pas un historien ni un journaliste, il va loin. Et cette tête d'Agbeto, c'est surtout l'Afrique qui a perdu sa tête. Cette tête d'Agbeto, c'est l'Afrique qui a perdu sa tête. Vous savez, le mot synonyme de tête, c'est chef. Et ce sont les indépendances décapitées. Vous savez, nous tournons aujourd'hui en rond dans l'histoire sans trouver une direction. Et c'est encore plus profond que ça. Et cette perte de la tête d'Agbeto, c'est l'homme, toute l'humanité qui a perdu la tête. Et vous savez, depuis la nuit des temps, l'homme a le cœur en panne. Ça, tout le monde le sait. Et il ne nous reste pour boussole que la tête. Sans notre tête, l'humanité devient un bateau ivre. Et on le voit aujourd'hui avec tous les vertiges que nous ressentons dans le monde moderne. Guerre, cupidité, etc. Et dans l'amour et le son, je l'ai dit, c'est sur nos têtes que sont fixés tous nos sens. Sensibilité, sensation, j'utilise le mot sens dans ce sens, l'ouïe, toucher, la vue, etc. Mais le sens aussi dans le sens de signification, des choses, de direction. Voilà, en gros, les trois dimensions qu'on peut retenir de cette perte de la tête d'Agbeto.
Et voilà. C'est profond, hein, Claude. La disparition d'Agbeto a profité à son frère nommé Boyi, qui, selon les rumeurs, aurait vendu son frère. Il était le Boyi alors des commanditaires. Quels sont les instigateurs derrière cette décapitation, Claude?
Les instigateurs, oui, c'est les, il y a Mami Wata, qui dans notre dans nos côtes ici est plutôt une déesse vertueuse, mais qui me fait penser moi à la, comment on appelle, à la déesse des mers. Et les mers, ça me fait penser à l'impérialisme, le capitalisme, tout ce que vous voulez. Ça, c'est l'instigateur. Et si vous parlez de l'instigateur, et dans l'histoire réelle, les gens ont cru que c'est l'armée l'armée, mais il y a deux sortes d'armées. Il y a l'armée républicaine, il y a l'armée républicaine que j'appelle ici Hebieso, c'est celui qui détient le feu sacré, hein, et qui, lorsqu'il descend sur terre, et c'est pour instaurer l'ordre juste. Je pèse le mot juste. Hein? Mais il y a aussi les forces d'insécurité, ceux qui détournent le feu sacré de Hebieso pour un ordre injuste. Et lorsque je pense à ces forces d'insécurité, ne pensez pas nécessairement ou toujours aux hommes en kaki. Hein? Il y a même les enfants de rue, tout ce que vous voulez, etc., qui peuvent se servir de on pense aux enfants soldats, par exemple, qui se servent de ces instruments, du feu, pour faire du n'importe quoi. Donc, qui sont au service de Mami Wata. Et ces forces d'insécurité, il ne faut pas les confondre avec les forces de sécurité, avec la force républicaine, hein, qui est dans l'œuvre Hebieso. Donc, si je me résume, l'instigatrice de cet assassinat, souvent, de cette indépendante décapitée, c'est Mami Wata, ça veut dire la reine des eaux, et qui symbolise dans le roman le capitalisme sauvage, l'Europe, tout ce que l'impérialisme, si vous voulez.
D'accord. Voilà. D'accord. À cause alors de cet assassinat d'Agbeto, les deux composantes des Doumevi, les Olé, ceux qui se disent alors autochtones, et les Ova, ceux qu'on dit venus alors d'ailleurs, sont divisés. Et parce que Mami Wata veut supprimer l'activité principale des Doumevi, qui est la pêche, pour leur distribuer à la place des boîtes de sardines. C'est leur offrir une facilité, hein, d'avoir des poissons sans la pêche, car Mami Wata a peur qu'étant un poisson, ni femme, ni poisson, cette pêche des Doumevi finira par la pêcher elle-même à la déesse Vodou. Elle supplante également la pêche par un chapitre unique, le tourisme, où on voit sur la plage les femmes danser avec leurs hanches et leurs grosses fesses au rythme alors de l'hymne national, une allusion à ce qu'on a appelé l'animation, hein, sous le parti unique. Les Ova, adeptes de Hebieso, ne sont pas d'accord. Les Olé, adeptes de Mami, oui. Et c'est la guerre civile ou l'expression « les mille collines » évoque alors une des guerres les plus sales alors de l'Afrique, c'est-à-dire le génocide du Rwanda. Et pour mettre fin à cette division fratricide, Hebieso envoie ses adeptes avec un héros nommé Amevo à la recherche alors de la tête d'Agbeto, coupée, jetée dans la mer. Mais la tête retrouvée, on remarque que Mami Wata est allé se cacher dans cette tête au large. Et qu'est-ce que vous voulez nous enseigner par symbolisme fantastique, hein, Claude?
Oui, je peux rappeler quelque chose. Lorsque on voit dans une histoire les dieux participer à l'histoire des hommes, on appelle ça le merveilleux. Et ce merveilleux est toujours fantastique. C'est quoi le fantastique? C'est une fiction pure, très éloignée de la réalité, mais qui a encore pour secret de révéler quelque chose de profond sur la réalité. Hein? Ce n'est pas une fiction en l'air. Hein? Alors, c'est la littérature. Quel que soit son éloignement du réel, elle revient toujours au réel. Et quelque part dans les fins siamois, on dira, Mami Wata, ça n'existe pas dans la tête. C'est un peu contradictoire. Ça n'existe, non. Ça n'existe que dans la tête.
Voilà.
Mami Wata, ça n'existe que dans la tête. Mais ça veut dire que, une première signification, ça peut dire que Mami Wata, est-ce que Mami Wata existe vraiment? Est-ce que ce n'est pas une imagination? Et simplement, une créature inventée pour empoisonner notre esprit, notre émancipation? Mais la vraie signification, c'est que Mami Wata dans la tête, et c'est notre vrai problème en Afrique. Hein. C'est un problème, notre problème en Afrique, surtout, c'est un problème de mentalité. Et nous pouvons vaincre Mami Wata, hein, et tout ce que ça symbolise, la France-Afrique, l'impérialisme, si nous avons la volonté. Et je peux vous donner l'exemple des Vietnamiens. qui ont réussi à mettre les États-Unis dehors. Et même les Français, hein, ils les ont mis dehors. C'est une question de fierté, de volonté. Il faut s'organiser. Hein. C'est ça la réalité. Nous avons la force, si nous nous organisons, de mettre fin à ces choses-là.
Et nous avons la force de mettre fin à ces choses. Alors, Claude, le second livre, Les Frères Siamois, qui nous montre le retour de la tête d'Agbeto, nous relate les tiraillements hein, de deux jumeaux collés, les Siamois, Dometo B, à tête de Hibiesso, que les oracles désignent pour remplacer Boï sur le trône. Ces jumeaux n'arrivent pas à s'entendre pour que l'un accepte de mourir pour laisser l'autre accéder au trône. Et parce qu'ils vont sentir que sous ce siège, Manuata ne cesse d'envoyer un courant de kori, c'est-à-dire l'argent, à travers des réseaux de tunnels de toutes sortes alors sous les eaux. Et vous évoquez dans cette partie Tavio Amorin, assassiné dans la rue. Dites-nous, Claude, la part de la réalité et de la fiction cachée là.
Oui, vous avez évoqué Tavio Amorin, mais avant ça, je vais vous dire que, avant Tavio, ce qui m'a inspiré cette œuvre, c'est le conflit inutile entre Maître Agboibo et Idem Kodjo pour se succéder au pouvoir. Deux leaders qui, par leur ego, ont perdu justement la tête.
Succéder au pouvoir.
Pour
la primature.
Oui, c'est.
Mais
allez-y. Mais le siège, c'est un siège. Il faut que un se sacrifie pour l'autre. Accepte de mourir pour que l'autre monte sur la scène, sur le trône. Mmh. Mais à la fin, le plus déterminé, le plus énergique, c'était celui que j'appelle dans le roman Dometo A, qui est Tavio Amorin, et qui sera assassiné dans la rue. Mais il ne va pas mourir. Hein. Son frère va le protéger avec son corps, lui communiquer la chaleur, et avec cette chaleur, il va réussir à absorber son jumeau, qui est retourné à l'intérieur de lui, pour devenir sa conscience. Et, justement, curieusement, celui qui est resté, et qui est plus modéré, il a accédé au pouvoir, il a remplacé Boy, mais il reste encore sous le charme de Mamiata. Mamiata, elle est très forte. Hein, qui veut l'acheter, qui peut encore l'acheter, mais celui qui est à l'intérieur de lui, qui est de sa conscience, qui est Tavio Amorin, lui communique souvent, l'en décourage d'être de sa conscience et le décourage de tomber sous le charme de Mamiwata. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est arrivé. C'est ainsi que son frère, finalement, qui a succédé à Boï, a réussi à pêcher dans sa propre tête Mamiwata. Ouais, ça.
C'est très profond.
Et maintenant, je prouve vraiment un problème de conscience. C'est quoi la conscience? C'est cet œil qui, dans notre tête, s'allume hein, brusquement et se met à filtrer les maladies de notre cœur, nos intérêts matériels, nos habitudes, nos cives culturelles toxiques, qui balayent tout ce que vous voulez.
Mmh. Voilà. Oui, c'est très profond et ça fait plus de la métaphore. On n'a pas pu aller pêcher hein, Mamiwata dans la tête morte d'Agbeto. C'est Tavio Amorin dit, vu Dometo A, le double alors de Dometo B, devenu sa conscience à l'intérieur, qui va aider son frère jumeau à prêcher Mamie dans sa propre tête. Et c'est ce que Tavio qui revient à l'extérieur et prend le visage d'Agbeto. C'est le retour d'Agbeto. Pourquoi pas alors son frère qui est déjà sur le trône, Claude?
Bon, voilà, tout ce que je dis, c'est des interprétations. Ça, c'est ce que
vous. Tout à fait, c'est des, justement.
Et je suis vraiment dans le symbolisme, et le lecteur peut trouver d'autres sens. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, moi-même, cette œuvre, je l'ai écrite, réécrite, et c'est il y a fait quelques 3 mois, je l'ai fixée définitivement. Et là, je veux signifier seulement l'alternance, hein, le retour que celui qui est à l'intérieur revient à l'extérieur. Parce que c'est à l'extérieur qu'il y a le combat. Ce n'est pas dans les coulisses, ce n'est pas dans la conscience. L'engagement, c'est à l'extérieur. Je peux m'arrêter là. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup, Claude. Eric, on va. Je ne sais pas si vous avez. Je sais, entre-temps, Isidore Kola, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Très bien, togolaisement bien, j'allais dire.
Vous avez dit très bien d'abord, avant quand même de nous de faire signifier que c'est togolaisement bien.
Togolaisement bien.
D'accord, oui. Je ne sais pas si vous avez une question ou une observation par rapport à ce que Claude a dit.
Non, beaucoup de choses. Heureusement que c'est de la fiction.
Oui, allez-y.
Si nous restons dans la fiction, peut-être déjà ne pas comprendre. Parlant des quatre éléments qui régissent la cosmogonie. L'air et le feu.
Ça fait deux.
Non, c'est des couples. Ils vont de pair. Il n'y a pas de feu sans air.
Oui.
Je ne parle pas de la cosmogonie. Il n'y a pas de terre sans eau. Donc, c'est les quatre éléments qui régissent. Mais je suis interlocuté ou interloqué quand vous parliez que le dieu de la foudre, Hidesso, a été dompté par Mami Wata.
Non, je n'ai pas dit ça.
Bon.
Tu n'as pas bien suivi.
Non. Je veux mieux comprendre.
Oui, voilà.
C'est
ça, il a été détourné. Son instrument, qui est le feu, a été détourné par les adeptes indisciplinés de Mami Wata.
Et c'est du symbolisme.
C'est du symbolisme.
Oui,
nous sommes dans la littérature.
Vous êtes dans la littérature. Je peux comprendre. Et dire que Mami Wata, la reine mère, ça, je parle du christianisme. C'est la reine mère. Mami Wata n'est autre que Namaria, dont nous parlons.
Oui,
religion, hein.
Oui,
nous sommes dans la littérature.
Ce n'est pas fini.
Eric, s'il vous plaît.
Non.
Je réagissais tout à l'heure par rapport à ce que Isidore disait quand Claude a parlé d'Edem Kodjo et d'Agbo Ibor, qui sont des frères et qui n'arrivaient pas à s'entendre pour que l'un cède le trône à l'autre. Tout ça, là, c'est de la fiction. Claude a fait. Et ce roman, les frères siamois, moi je l'ai lu, je l'ai relu avant de pouvoir soutirer quelque chose.
Voilà.
Oui, et jusque là, quand tout à l'heure dans ses explications, et lui-même, il essayait de nous dire que c'est une fiction qui nous permet de dire tout simplement que nous devons avoir une conscience et nous devons sortir de quelque chose. Nous avons été colonisés et donc civilisés par certaines puissances. Et qu'il faut faire en sorte que nous-mêmes, nous ayons une conscience pour pouvoir surpasser tout ce qui nous dérange. Et je crois que c'est maintenant, je viens d'approfondir ce qu'il a écrit dans son roman. Et c'est ce que je dis. Je dis, quand tu parlais d'Edem Kodjo et d'Agbo Ibor, Isidore a réagi en disant que c'était juste la primature. Je ne dis pas que la primature, parce que je me rappelle en 93, Edem Kodjo était le candidat unique du CODE, et à deux jours du scrutin, Edem Kodjo a démissionné. Pourquoi? Parce que tous les autres leaders de l'opposition du CODE en son temps avaient décidé que le candidat unique de l'opposition démissionne. Et donc, effectivement, Edem Kodjo a démissionné et le boulevard était là pour et Adema qui a battu.
J'ai pas réagi sur ça.
Si, c'est ce que tu
as. Il faut que je recentre.
Oui, justement.
Je reprends la parole pour recentrer.
Rapidement.
Pourquoi ne se parle pas? Pourquoi je ne parle pas?
Rapidement. Oui, rapidement. Rapidement.
Je crois que
Eric
est dans la logique des choses. Il ne faut pas confondre littérature et religion. Tout ce que vous dites en religion pour avoir raison. En littérature, on fait des jeux, on est libre, beaucoup de fantaisie, et il faut l'accepter comme ça. Et il y a des interprétations plurielles. Voilà. Et deuxième chose, la succession dans un régime semi-présidentiel, lorsque vous prenez l'Assemblée, vous prenez le pouvoir. Voilà, merci.
D'accord, merci Claude. Merci pour ces explications sur l'œuvre. Alors, nous allons aborder notre premier sujet pour le compte alors de cette émission. Je le disais déjà en début alors d'émission dans mes mots introductifs où je parlais alors de cet immeuble qui emploie alors aux flammes qui s'est effondré hier lundi aux abords du Grand Marché près du bâtiment Nopato. Et c'est vrai, initialement destiné à l'habitation, l'immeuble servait également de dépôt et point de vente alors de produits chimiques, ce qui aurait favorisé la propagation rapide et violente alors du feu, selon les informations. Isidore, vous avez assisté de bout en bout à ce drame hier. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé, Isidore?
C'est à 200 mètres de chez moi. Je n'ai pas dormi de la nuit. Tout a commencé depuis samedi. C'était un entrepôt où des fumées jaunes s'y dégageaient. J'ai été interpellé. Je suis passé par là. L'odeur était nauséabonde. Samedi. Dimanche, ceux qui ont entreposé les produits là-bas sont venus et demandé à nos frères de les évacuer en leur donnant des cache-nez. Ils se sont allés, dit que, mais combien nous allons prendre? Dit que, après tout, avant de réagir, vous donne 2000 francs. Les gens sont partis. J'ai suivi ça aussi. C'était dimanche. Lundi, à 14h, hier, je reçois un coup d'appel. Le Pidio, un Pidio, qui faisait partie du comité,
CDQ,
à l'époque. Il m'a dit que, grand frère, quelque chose se passe, hein. J'ai dit que je suis, viens rapidement. Le temps que je mette mon ami, dit que, c'est déjà enflammé. J'arrive. Quelle flamme je vois? D'abord, couleur jaune. Une heure de temps après, orange. 30 minutes après, ocre. J'ai dit, ça, je ne l'ai jamais vu. Et j'étais resté loin. On dit que, journaliste, encore le Oma. Oma, il faut nous. Mais écoutez, ça là, je ne peux pas y aller. Je ne suis pas journaliste kamikaze. Je suis journaliste d'investigation, je ne suis pas journaliste kamikaze. Je vais pas m'exposer à ces odeurs chimiques dont je ne connais ni d'Adam Def. Et j'ai interpellé les chefs de sécurité. Allez dégager tous ceux qui sont là-bas en termes de curiosité pour voir ce qui se passe.
Ils vont s'intoxiquer.
Ils vont s'intoxiquer pour rien. Après, c'est une fumée noire.
Ok.
Je vous décris les choses telles que ce sont.
Oui, justement, nous écoutons.
Une fumée noire. 45 minutes après, on a vu les flammes dans le bâtiment. Ce n'était pas un bâtiment construit pour le logement. C'était un entrepôt. C'est toujours un entrepôt. Parce que quand on se prend un logement...
Ça ne servait pas d'habitation?
Non, pas du tout.
D'accord.
Pas du tout.
Ok, allez-y.
Pas du tout. Et ça a commencé à 15 heures, quand les flammes ont commencé. Jusqu'à présent, le feu ne s'est pas encore éteint.
Mais après tout, le bâtiment s'est effondré, c'est ça?
À 21h15, j'étais au balcon pour prendre de l'air. Je dormais.
Tu n'as pas pu dormir, mais...
Non, je me reposais.
Oui, mais je ne sais pas parce que vous dites.
Non, non, je n'ai pas dormi. Jusqu'à 21h et quelques. Bon, on sent que. J'ai senti que, bon. Les efforts sont vains. Et. Une fois, j'ai entendu un bruit. Avec une sourdité. Et la chaleur m'est parvenue à plus de 200 mètres près. J'ai sursauté. Oh Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai remarqué que l'immeuble s'est effondré comme une carte.
Château de cartes.
Un château de cartes. Et c'est là où je suis resté pour voir. C'est à ce moment que les grandes autorités, Madjoulba, Jean-Pierre Fabre, ce là sont passés. Et la zone était déjà bouclée. Moi, je ne veux pas...
Actuellement, la zone est bouclée.
Toujours bouclée. Et je ne veux pas y aller en tant que journaliste, mais en tant que révérend, pour mieux apprécier les choses. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur le lieu parce que j'ai vu, on a fait appel à des compétences, Ebomaf et Anazap, qui pour amener des sables, qui pour amener de l'eau. Et le sable était déversé sur le trottoir, enfin, pas le trottoir, mais.
La chaussée.
Je me pose beaucoup de questions. Ce matin, j'ai compris que quand les sapeurs-pompiers étaient venus pour éteindre le feu, l'eau qu'ils envoyaient ont dégouliné et ont transporté des déchets toxiques. Dans l'acide.
D'accord.
Et pour préserver la population, jusqu'à présent, ils sont en train de remblayer ce passage. Et j'ai appelé l'Agence nationale de la gestion de l'environnement.
D'accord, merci.
Et Ange, tu permets que je puisse terminer?
Oui, mais non, c'est
sûr. Qui a dépêché ses avis techniques pour apprécier l'impact environnemental? C'est ce qui a été fait. On vient juste de nous séparer. Et la suite, moi j'interpelle les autorités. Ils ont dit que c'est une catastrophe écologique. Ce n'est pas de l'acide sulfurique, ni l'acide chlorhydrique. Il y a un technicien qui a dit que c'est l'acide et nitrique qui attaque même les fers jusqu'à la nappe phréatique. Je lance un appel aux autorités compétentes de prendre leur responsabilité. Leur responsabilité.
D'accord.
J'ai fait ma part.
Merci. Merci beaucoup.
Je pense que tu n'as pas fait ta part. En première réaction, je dis tout de suite que une fois que tu as constaté qu'il y a une vapeur jaunâtre qui sortait, là déjà il faut interpeller.
C'est-à-dire depuis le début.
Depuis le début. Je pense que
j'ai appelé la mairie.
Oui. Mais comme tu n'as pas dit.
Tu n'as pas dit que tu as interpellé la mairie.
Le samedi, la mairie ne fonctionne pas. C'est le lundi que j'ai appelé la mairie.
Mais quelle a été la suite?
Le samedi, il y a d'autres autorités que tu peux appeler.
Quelle autorité?
Oui, le samedi, il y a les sapeurs-pompiers, il y a la police, et tout ça. Puisque déjà, sur le terrain aujourd'hui, il y a les sapeurs-pompiers, il y a la police, il y a la NASAP,
il y a la gendarmerie.
Il y a la gendarmerie.
Et donc, je ne t'ai même pas informé. Hein.
Oui, c'est toi qui nous as informés, oui.
Oui.
Mais non, le truc, c'est que c'est eux qui sont venus faire les premiers diagnostics. C'est eux qui ont dit tout de suite que c'est de l'acide nitrique et tout ça. Je pense que à leur niveau, ils sont sous le
ministère. Je ne dis pas que c'est pas certifié. Hein. Ils vont faire les trucs là. Il ne faut pas me prêter des intentions.
Non, c'est ce que vous avez dit.
Pas du tout. J'ai dit que c'est de l'acide nitrique.
C'est ce que vous avez dit maintenant.
Éric, s'il te plaît, vas-y.
Non, moi, je pense que là, actuellement, il a parlé de catastrophe
écologique.
Je pense que c'est extrêmement grave.
Tout à fait.
Dans un milieu qui est très habité et où il y a beaucoup de commerce. Et c'est surtout ça. Aujourd'hui, les gens vont quitter peut-être leur zone d'habitation à Gouin, Baguida, tout ça, pour venir travailler là. Oui, mais tu as dit tout à l'heure.
Tu as dit tout à l'heure
que sur 200 mètres, tu as reçu de la chaleur.
Oui.
Ça veut dire que le vent est en train de faire une propagation de tout ce qu'il y a comme substance dangereuse. Et donc, il faut faire extrêmement attention. La zone est bouclée à quel rayon? C'est tout ça, il faut voir. Lorsque nous avons toutes ces informations-là, il faut quand même que l'autorité soit interpellée, ou soit c'est toute la zone qui est bouclée, c'est-à-dire sur plus de 2 kilomètres peut-être, pour éviter quand même que les citoyens soient intoxiqués. Et moi, de l'autre côté, je dis, vous savez, les gens ont cette habitude-là. Vous avez constaté un truc. Et vous appelez les gens pour venir dégager tout ce que vous avez dans votre entrepôt. Et les gens demandent combien vous allez nous payer. Vous dites 2000 francs pour tous ces gens-là. Et c'est à cause de l'argent aujourd'hui. Combien vous allez payer à ces gens, même si vous leur donniez 10 000 ou 20 000, ils allaient peut-être évacuer les choses et la source de cet incendie-là pouvait être tout de suite arrêtée. Et donc, à cause de l'argent, vous voyez tout le dégât qu'on a aujourd'hui. Et on me parle d'une catastrophe écologique. Attention, le mot est très fort, hein.
Mais ça c'est Isidore qui l'a utilisé.
Il dit qu'il a échangé avec des spécialistes de l'environnement qui étaient arrivés sur le terrain. Et donc c'est là où il a appris cela. Il faut que les autorités fassent diligence pour que ce truc-là soit rapidement.
On laisse les autres aussi se prononcer d'abord. Après tout, vous allez revenir, il n'y a pas de souci, Isidore. Oui, Adam, c'est vrai que le ministre, étant sur les lieux, le ministre a déclaré que c'est un événement grave, bien sûr. Et les premiers éléments font état d'un incendie couvant depuis plusieurs jours, ce qui interpelle sur la vigilance dans nos milieux urbains. Alors, si justement, quand on nous dit que le feu a démarré depuis plusieurs jours, est-ce que finalement la vigilance au niveau de la population n'a pas été défaillante quelque part?
Oui, c'est toute la ligne. C'est vrai que s'inspirant en réalité des exemples des catastrophes survenues ailleurs, liées donc au dépôt des produits chimiques. Je pense que aussi bien le Togo comme d'autres pays devaient donc s'en inspirer et justement mettre en place des dispositifs pour interpeller, en tout cas, ces commerçants qui n'ont pas d'outils rien donc pour protéger les lieux. Il y a eu le Liban où on a vu des dépôts de produits toxiques. On a vu également en Guinée, des produits chimiques qui ont causé des catastrophes assez inquiétantes. Donc je pense que cela devait être le cas. Oh, malheureusement, vous l'avez dit, lorsque nous prenons une zone tellement habitée, une agglomération très fréquentée, je pense que l'autorité devait donc anticiper. Quand nous parlons d'autorité, il y a la commune qui est normalement l'autorité compétente la plus proche, qui, en tout cas Colette, qui est chaque jour que Dieu fait, aux côtés donc de ces commerçants-là, devait donc attirer leur attention. Mais également, est-ce qu'aujourd'hui nos mairies disposent vraiment des ressources compétentes pour identifier, en tout cas, c'est lui où
on va se confier. Est-ce que la mairie avait l'information aussi à temps?
Il y a ça. Oui, moi, je vais plus loin maintenant avant de revenir sur la situation. Normalement, si nous revenons maintenant sur la cause la plus proche, en réalité, la mairie n'a pas été donc informée à temps, mais justement, parlant donc de la défaillance des riverains, c'est là où on peut donc convoquer cette défaillance des riverains liée au fait que, en réalité, lorsqu'on a constaté, et jusqu'à ce qu'on a interpellé, donc les populations à venir évacuer les produits, parce qu'on a constaté de Jésus qu'il y avait donc une catastrophe qui était donc imminente, et justement à cause de l'argent, et là aussi, il faudrait donc se questionner. Justement, les gens pouvaient donc se prêter volontiers à pouvoir donc dégager ces lieux-là. Si tel est que les gens avaient à l'esprit, en tout cas, le dégât, le degré, le niveau de l'ampleur que nous vivons aujourd'hui, je pense que volontiers, les gens pouvaient donc s'apprêter à les aider. Ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut dire que c'est la population qui est défendue ou tout simplement le Libanais à qui appartient donc ce dépôt qui a été donc... un Pakistanais à qui appartient le dépôt qui a été défendu. Puisque nous sommes devant un acte commercial et que chacun veut vouloir faire plus de bénéfices, n'a pas tout de suite aussi compris l'ampleur des dégâts qui attendaient, donc n'a pas dégagé les moyens qu'il faut. Je pense que les responsabilités sont partagées et nous devons en tirer en tout cas les conséquences et faire en sorte que dès aujourd'hui, qu'on puisse également identifier ces lieux qui abritent donc ces produits chimiques-là pour faire en sorte qu'on ait des dépôts assez adéquats pour éviter de tels drames à l'avenir. Isidore parlait du fait que la zone n'était pas une zone habitable, mais on a constaté que les
gens... C'est une zone habitable.
Mais c'est l'immeuble.
Mais on a constaté que les gens vivent. Puisque moi, j'ai eu des images tout à l'heure où on dit les gens sont pratiquement... Tout est détruit. L'habitation, les habits, tout est détruit. Ça veut dire quelque part que...
Les gens qui vivaient là-bas.
Il y a des images. Non. Il y a des images.
Nous avons l'information.
Un truc qui a démarré depuis samedi. Alors, le propriétaire des lieux, est-ce qu'il a été informé? Est-ce que il n'y a pas d'agent de sécurité? Il n'y a pas de gens qui travaillent là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse laisser ce truc-là couver de lundi, de samedi jusqu'à lundi, avant que ça prenne...
Mais personnellement, c'est ce que je n'ai pas compris.
Oui, on ne peut pas comprendre cette attitude-là, parce que vous avez vu, mais déjà une fumée qui se dégage de quelque part, c'est qu'il y a une source d'incendie. Ça, c'est un réflexe humain. Il fallait faire quelque chose, il fallait agir. Mais le propriétaire, vous savez, Adam parlait tout à l'heure du Liban, de la Guinée. Quand ça s'est produit, ça a valu le poste de directeur du port, de directeur de
ceci, toute une chaîne.
De cela. C'est toute la chaîne. C'est-à-dire qu'il faut que tous ces gens-là répondent de quelque chose.
D'accord.
Président, il parle de fumée. La fumée a été toujours blanche, non? On va sortir une fumée jaune.
Mais c'est une alerte.
Non, c'est une alerte. Est-ce que les gens... Moi-même, je n'ai pas compris que c'était déjà un incendie qui a été déclenché.
Oui.
C'est ça. Non. Permettez qu'on puisse...
Allez-y.
On n'a jamais vu une fumée jaune, orange, ocre. C'est à partir de cet instant que la population ou les riverains se disent « Ah, il y a un grand danger. » Au début, les gens croient que c'était seulement, comment appelle-t-on, quelque chose d'ordinaire. Parce qu'on n'a jamais vu de fumée jaune au Togo. Moi, je n'ai jamais vu.
De plus, non?
La tête a commencé à partir de 14h30.
Le samedi.
Hier.
Mais la tête a commencé le samedi.
C'était des fuites.
Mais tu as vu.
Mais j'ai vu la fuite.
Mais avant peut-être toi-même, les gens avaient vu.
Mais les gens avaient vu, moi, interpellé.
Oui.
Mais écoute, est-ce que toi, Eric,
oui.
Tu vois ça, tu vas dire que c'était un incendie.
Non, je peux ne pas dire que c'est un incendie.
Ah, voilà.
Je serais interpellé.
Je suis interpellé.
Si tu le prends en chimique,
moi, j'ai voulu interpeller d'abord les. L'ange.
Mais attends,
permets.
C'est toi qui as dit qu'il y avait même une odeur nauséabonde.
Nauséabonde. Et j'ai dit que, mais ce n'est pas possible.
Mais déjà, c'est
un je ne suis pas une autre des indices.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi une raison de plus pour informer même l'autorité en
même temps? Quelle autorité informée samedi?
Il y a la mairie, et c'est autre
chose. La mairie, je l'ai saisie.
D'accord, ok, merci beaucoup. On va quitter
la mairie. La mairie n'est pas compétente.
Le sujet.
Le DST?
Oui.
La DST n'est pas compétente.
Merci.
Bon, non.
Nous avons beaucoup de sujets et là, nous n'allons pas prendre toute l'émission pour parler que de ça. Ça, c'est social, bien sûr, je le sais. Nous allons revenir sur le sujet. Nous allons revenir sur le sujet dans nos émissions. Ça, c'est clair, c'est très important. C'est très important.
Il semble que le Pakistan est à Gaza.
C'est important, oui, mais rapidement, on va passer à un autre sujet. Et c'est vrai, nous suivons alors de près, bien sûr, cette situation. Et nous reviendrons sur le sujet aussi, sur la situation dans nos émissions, dans nos prochaines émissions, bien sûr. Oui, Eric, c'est vrai, ce matin, notre deuxième sujet, ce matin, vous écrivez « Examen des politiques de transformation économique du Togo, les exigences à satisfaire avant la prospérité partagée ». C'est quoi la quintessence?
Oui, en fait, il y a un rapport de l'OCDE qui a été remis à Madame Tomega Dogbe, le Premier ministre. Et c'est un rapport qui est en réalité un diagnostic de notre économie. Et donc, le Togo a été le second pays, le pays en voie de développement, en voie de sous-développement, je ne sais pas trop, mais des pays qui ne sont pas du tout développés. Le Togo a été le second pays à demander une vue extérieure de notre économie. Et donc, ce travail a été confié à l'OCDE, qui est l'organisation de coopération et de développement économique, et un rapport a été fait, et c'est un rapport de presque 200 pages qui a été officiellement remis à Madame Tomega Dogbe. Et donc, dans ce rapport, nous lisons ce qui est aujourd'hui la face de notre économie. Et très franchement, pour faire c'est-à-dire que pour faire des recommandations, il faut déjà comprendre l'existant. Et donc, sur l'existant, je vous dis, je peux vous donner de petits chiffres où on me dit, par exemple, que dans notre agriculture, elle est encore sous-mécanisée. C'est-à-dire plus de 11% des ménages qui font des ménages agricoles, soit 11% utilisent encore la roue et les petits.
Ça, c'est une évidence.
Oui, mais vous savez combien on a investi dans l'agriculture depuis 2022? On me parle de plus de 900 millions de dollars. Vous imaginez cela? Et on est encore à cette étape. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Et donc, ce qu'on appelle ici la prospérité partagée, c'est qu'il faut que notre économie avance et que, de façon inclusive, que tous les Togolais bénéficient de cela, que cela soit partagé. Et donc, le rapport même, le titre, c'est « Examen des politiques de transformation économique du Togo pour une prospérité partagée, les voies de développement, édition CDE 2024 ». Et donc, ça c'est un exemple. quand vous prenez comment ça s'appelle, l'industrie, aujourd'hui, c'est vrai, on dit le Togo fait des efforts pour son industrialisation, mais le gap par rapport à d'autres pays qui sont en train d'avancer, et il est trop grand. Et donc, les recommandations sont là. On demande au Togo de faire beaucoup plus, de pousser le secteur privé à aller de l'avant. Et donc, je crois que nous avions parlé d'un document que la JETS a sorti tout récemment. La JETS a parlé clairement de la corruption qui est également un frein à l'évolution de la société, enfin, des entreprises. Et donc, l'OCDE recommande cela, de lutter fortement contre la corruption, de beaucoup investir dans la mécanisation de l'agriculture, dans l'industrialisation, dans le commerce intra-régional, parce que nous sommes encore très consommateurs de l'extérieur. Ça veut dire que nous-mêmes, ce que nous produisons, ce n'est pas à l'échelle internationale où on peut faire rapidement un commerce extérieur, mais nous, extérieur, mais c'est, nous continuons pas à consommer. C'est vraiment un peu touchant quand vous lisez ce rapport-là. Mais je pense que toutes ces recommandations, nous demandons hein, que ça ne reste pas dans les tiroirs, mais qu'on en prenne vraiment compte pour une meilleure planification.
Merci beaucoup, Eric. Oui, Isidore, c'est vrai que quand on prend ces recommandations de l'OCDE aujourd'hui, alors finalement, ce sont des choses quand même que nous connaissons tous et nous devons faire même ces efforts pour aller vers la mécanisation de l'agriculture, pour aller vers la lutte efficace contre la corruption et pour aller vers d'autres secteurs hein, pour le développement de notre pays. Mais là, on a envie de savoir, mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond?
Est-ce que je peux répondre? Je ne suis pas au décideur. C'est au décideur. Au fait, tous ces rapports-là, ça m'enchaud. J'ai eu à le dire. J'ai été de ceux qui faisaient partie des éléments où vous produisez certains rapports au Togo. Mais aujourd'hui, je suis déboussolé. Depuis très longtemps, en commençant par Doing Business, qui était un rapport de performance économique conduit par la Banque mondiale, où on avait infiltré le mécanisme pour avoir de bons scores. Je suis désolé de le dire. On s'active à avoir de bons scores. Premier pays réformateur, premier pays telle chose. Et une fois, j'ai eu à le dire, mais quelles sont ces performances qui n'ont pas un visage humain? Ça, c'est mon grand souci.
On t'a répondu.
Que quoi?
On t'a répondu.
Que aujourd'hui,
c'est toi qui as posé la question.
On a des performances à visage humain.
On t'avait répondu.
Qu'il y a des performances à visage humain. Pas du tout.
D'accord.
Jusqu'à présent. Et c'est ce qui se passe. Moi, tout ça là, ce sont des simagrées.
D'accord. Mais merci.
Ce sont des simagrées.
Merci Isidore.
Et là, le développement est introverti.
C'est nous-mêmes
qui allons nous développer. Je ne sais pas, quelqu'un va dire que ah, vous êtes développé.
D'accord, merci Isidore. Oui, Adam, vous, quelle est votre appréciation même d'ailleurs de ces recommandations de l'OCDE à l'endroit même d'ailleurs de notre pays?
Vous savez, pour la prospérité, on a toujours l'habitude de dire que nous sommes des pays essentiellement agricoles. Donc pour se développer, c'est un facteur vraiment donc à prendre en compte. Et lorsque, Eric le disait tantôt, lorsque vous voyez les investissements et lorsque vous voyez les réalisations également sur le terrain, la volonté du gouvernement pour arriver à développer notre agriculture est assez probante. Et les moyens sont également mis à disposition. Mais sauf que il y a un paradoxe. Je me rappelle en 2018, 2019, 2020, il y a une étude indépendante menée sur les grandes agglomérations agricoles au Togo. Et il s'est révélé qu'en réalité, les plus grands investisseurs de l'agriculture togolaise sont en réalité les travailleurs, notamment les fonctionnaires, les députés, les ministres, etc. Que c'est les plus grands investisseurs de l'agriculture au Togo. Et lorsqu'on voit aujourd'hui, ils sont en train de faire déjà le recensement, deuxième recensement agricole, on prend, en tout cas, les préoccupations...
Cinquième, hein?
Non, je parle de ce qui a commencé cinquième, mais il y a eu une deuxième phase, voilà. OK, qui est en train d'être faite sur le terrain. On prend donc les préoccupations des uns et des autres, des agriculteurs, entre guillemets, comme tels. Mais ce sont ces indicateurs, ces préoccupations qui vont faire objet d'études. En arrière-plan, ceux qui même investissent dans cette agriculture-là, qui sont notamment ceux dont je viens de citer, c'était une étude assez sérieuse, en fait, n'ont pas de voix là-dedans. Ça voudrait dire quelque part que ce paradoxe est existant. Et justement, ce qu'on recense et qu'on prend les préoccupations ne font que de l'agriculture de subsistance. Donc l'agriculture en réalité qui fait que les Togolais se nourrissent est réellement investie par les fonctionnaires, les grands administrateurs, etc. Donc ce paradoxe également fait que cette prospérité voulue en réalité ne serait pas donc au rendez-vous, comme le disaient certains, demain n'est pas la veille en ce qui concerne donc cette prospérité. Parce que les préoccupations, ce qu'on prend, ne sont pas en réalité ceux qui sont censés donc mener à grande échelle cette agriculture-là. Donc, les prospères sont toujours, en tout cas, ces grands fonctionnaires-là, ces ministres, etc., dont la prospérité est justement déplacée.
D'accord. Alors,
je comprends bien qu'un ministre puisse investir dans le domaine agricole. C'est très important, parce que c'est eux qui ont les moyens.
C'est une bonne chose.
C'est une très bonne chose. Il faut l'encourager. Et je me souviens de CRA, en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a développé l'agriculture parallèlement à Oufouet. Donc, on veut de ces manières-là pour le faire. Mais est-ce que nous avons ces compétences, les apps, ces choses-là, on était allé à Kara, prêtez-moi le mot,
les
agroforums. Aujourd'hui, quels sont les résultats concrets en termes de production?
Eric, ce que je voulais dire, c'est le cinquième recensement national de l'agriculture qui a été bouclé en décembre dernier. On a déjà les premiers résultats et on a une vue générale de, par exemple, du nombre de ménages agricoles, de pourcentage de gens qui utilisent, qui font un peu dans la mécanisation et de ceux qui ne le font pas. Et maintenant, les résultats, préfecture par préfecture, même région par région. Je crois que cela nous donne une vue d'ensemble. On parlait de l'OCDE. En réalité, c'est le Togo qui a voulu qu'il y ait une vue extérieure de cette performance. Et il a été dit qu'il y a le potentiel. Sauf que il manque un peu de planification et d'orientation pour que nous puissions relever un peu.
D'accord. Merci beaucoup. Il est midi. Nous n'avons pas pu aborder les autres sujets, bien sûr, puisque nous avons surtout des sujets politiques, mais nous reviendrons sur ces sujets sûrement alors dans nos prochaines émissions, c'est-à-dire demain et dans la semaine, bien sûr. Midi, nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs pour s'exprimer sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Et c'est sur nos deux numéros 90, 86, 35, 35, 91, 36, 33, 115. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour la Kenya, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et nous vous présentons toutes nos excuses pour le fait que vous n'avez pas eu le temps nécessaire de rentrer en ligne pour
se prononcer sur des sujets débattus ici au cours de la presse. Et nous ne pouvons même pas aussi donner l'opportunité à nos confrères sur le plateau de faire en quelque sorte leur réaction, puisque c'est le tour de table ne peut pas alors se faire. Et donc nous allons juste mettre fin à l'émission ainsi. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisqu'entre temps il y avait eu cette coupure justement qui a dérangé, et donc ce qui a fait que finalement vous n'avez pas pu avoir même d'ailleurs l'opportunité de s'exprimer. Mais ce qui est sûr, ce n'est qu'une partie remise. Demain, nous allons nous retrouver dans l'émission Club de la Presse. Merci à vous, Eric Pacudio-Johnson, d'être passé dans cette émission. Isidore Colon, merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup à Adam Androni d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup à notre chroniqueur Claude Assio-Baptiste d'être passé dans cette émission. Merci à Thomas Etek aussi de la TV qui était à la mise en onde. Jérôme Dacoutier était à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain mercredi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.